Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle et à demain. Jeanne est donc adjointe au maire. Pourquoi pensez-vous que le vote obligatoire n'est pas la solution ?
Bah, c'est pas une solution de rendre systématiquement les choses obligatoires pour moi. Je pense que c'est aux politiques qui... Enfin, ils suscitent pas l'envie d'aller voter. Je pense que c'est à eux de se poser des questions, de savoir pourquoi il y a autant d'abstention. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pédagogie, notamment envers nos jeunes, parce qu'il me semble que 87% des jeunes de 18 à 24 ans ne votent pas, ne sont pas allés voter. Donc il y a peut-être déjà un travail de fond à faire. Peut-être qu'à l'école, il n'y a pas peu ou pas d'éducation civique. Moi, j'ai le souvenir de mon fils l'année avant qu'il passe le bac, qu'il a passé un bac ES. Dans son cahier d'éducation civique, il n'y avait rien, pas une ligne. Moi, ça m'inquiète.
Non mais le politique a perdu son prestige et son pouvoir. Les gens ont le sentiment que ça sert à rien. Que depuis 30 ans, ils votent un coup à droite, un coup à gauche et que rien ne change. Donc effectivement, ils se détournent des bureaux de vote.
Bien sûr, on leur explique pas les compétences d'un conseil départemental, on n'explique pas les compétences d'un conseil régional. On a l'impression qu'ils se critiquent publiquement sans arrêt. Et ça rehausse pas les débats, ça donne pas envie d'aller voter. Même s'il y a de plus en plus de candidats très jeunes, je trouve, la preuve, les jeunes ne sont pas allés voter.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il faut les sensibiliser. Pourquoi pas, dites-vous, instruction civique, éducation. Mais Pascal Perrineau disait tout à l'heure, voter sur 2 jours, multiplier les procurations.
Non, moi je ne crois plus en tout ça. Je crois que les gens, ils en ont marre de la politique politicienne, déjà, pour commencer. Ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir des hommes de terrain qui soient là, je vais dire pratiquement quotidiennement, et qu'on leur donne l'envie de faire des choses, même ne serait-ce que de se présenter sur une liste, d'être élu. Enfin, il y a des choses, il y a tellement de choses à faire, mais des choses concrètes.
Merci Jeanne, merci beaucoup. Jean-Claude est là également, bonjour dans les Charentes, ou dans la Charente, qui est maire honoraire également. Bonjour Jean-Claude, donc il connaît la démocratie participative et de terrain.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, évidemment que moi personnellement je suis contre le vote obligatoire dans le contexte dans lequel il est présenté. C'est-à-dire comment peut-on oser parler du vote obligatoire entre les 2 tours d'un scrutin, entre le premier et le deuxième tour, sous prétexte qu'au premier tour les gens n'auraient pas voté. Ça voudrait dire que le pouvoir voudrait agir...
C'est nous qu'en parlons, c'est pas les politiques là pour le coup, c'est la classe médiatique qui en parle.
Oui, mais les politiques en parlent aussi. Il y a quand même un vote qui est obligatoire en France. Le vote des sénatoriales, le vote des sénateurs. Moi, je suis grand électeur en tant qu'élu. Nous avons une amende si on ne va pas voter. Ce que l'on peut constater, c'est que lors des dernières sénatoriales, les grands électeurs sont allés voter. Mais nous avons eu d'énormes difficultés pour trouver des assesseurs. C'est-à-dire que les candidats eux-mêmes n'arrivaient pas à mobiliser assez de force pour qu'il y ait des assesseurs. Le préfet n'arrêtait pas de nous écrire pour nous demander si nous voulions être assesseurs. Donc il faut s'interroger à la fois sur le vote obligatoire, exemple quand il est obligatoire pour les sénatoriales, et également si quand on veut le rendre obligatoire, par exemple, parce qu'actuellement le pouvoir est dans une situation d'échec et les Français démontrent leur désintérêt à ce qui se passe. Prenons le cas, par exemple, j'ai reçu aujourd'hui des professions de foi. Sur les professions de foi, quelle est l'appartenance politique ? Tout est flou. On ne sait plus pour qui on vote non plus. On ne sait plus, on parle d'union, on parle de... Mais sur le terrain, on constate bien que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Alors, entre la carpe, eh bien, les gens vont à la pêche, et puis pour le lapin, ils vont à la chasse. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer.
C'est vrai qu'il y a un désintérêt, manifestement. Il y a un désintérêt. Et vous ne pensez pas aux solutions alternatives ? Pourquoi pas un vote électronique ? Pourquoi pas voter le samedi et le dimanche ? Pourquoi pas voter par correspondance, multiplier les procurations ?
Même si je suis de la génération Gutenberg, je pense que je ne suis pas opposé à toutes les méthodes qui peuvent rendre utile, je veux dire, ce qui est un droit fondamental et qui est indispensable dans toute démocratie, c'est-à-dire le vote. Seulement, je me méfie également quand on voit tous les problèmes qu'il y a pour l'informatique et comment on peut détourner parfois et comment on peut manipuler, on l'a vu entre les États-Unis et la Russie, etc. Il y a quand même de sacrés problèmes. Et surtout, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il faut regarder dans le monde où les pays, quels sont les pays où le vote est obligatoire, où il a été également obligatoire, où il ne l'est plus dans certaines dictatures qui sont devenues depuis des démocraties et qui ont retiré le vote obligatoire. Donc c'est ça, il faut voir ce qu'est le vote obligatoire au Luxembourg, en Belgique, etc., où ils ont une histoire particulière. Mais si on prend le cas de la Belgique, par exemple, le vote est obligatoire. Mais il est obligatoire parce qu'à l'origine, au XIXe siècle, c'était le moyen de démocratiser le vote et de le rendre possible pour tout le monde, parce que les classes populaires ne pouvaient pas voter. N'allez pas voter. Les femmes en France n'ont le droit de voter que depuis, c'est Charles de Gaulle qui leur a donné le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, quand on a été obligé de reconnaître que un homme, une femme, point, c'est tout, on ne se pose pas la question des sexes, on se pose la question de l'être humain qui s'exprime sur son mode de vie. Mais il y a aussi, les professions de foi sont d'une banalité, c'est-à-dire on ne sait plus ce que sont les programmes, tout est inodore, tout est incolore. Les gens aiment bien savoir, ils ont l'impression qu'ils votent à droite ou à gauche, c'est la même chose. Et comme ils n'ont pas envie de voter non plus pour l'extrême droite peut-être ou l'extrême gauche, eh bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent pas. Donc si on leur rend obligatoire le vote maintenant, ils vont ressentir ça comme une décision dictatoriale où non seulement on le rend obligatoire, mais en plus on va leur mettre le bulletin de vote dans la main.
Eh ben merci beaucoup, merci Jean-Claude. C'est notre première question du jour. Il y en aura d'autres, évidemment. Il y a le recul du Rassemblement national au premier tour des régionales. Peut-il profiter à Éric Zemmour ? La vaccination, on doit faire mieux, dit le Premier ministre. Et puis, moi j'ai envie de parler de football. Est-ce que vous êtes convaincu par cette équipe de France à l'issue du premier tour ? Et puis le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur qui ont failli, non pas en venir aux mains, mais qui ont eu un échange musclé. Ça aussi, ça fait causer. Comme on dit, il est 13h08. Monsieur Caranoni est là.
Bonjour à tous.
Vous avez fait la fête cette nuit ?
Non, pas du tout. Non, non. Pourquoi ferais-je la fête ?
L'équipe de France est qualifiée. Elle a fait
un match
nul.
On fera la fête quand ils auront gagné l'Euro. Même si le match était super, mais
le match était formidable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour et le sujet qui vous fait réagir. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Selon un sondage IFOP, 59% ne sont pas favorables à cette idée. Et vous, est-ce le seul moyen pour en finir avec l'abstention ? Craignez-vous que ce soit contre-productif ? Le politologue Pascal Perrineau était l'invité de RTL Midi.
Le vote obligatoire n'est pas antidémocratique, mais on se demande, lorsqu'il y a un tel malaise dans la démocratie politique et électorale, s'il faut répondre une fois de plus par la contrainte. Infantiliser une fois de plus les citoyens. Je ne crois pas que c'est à la hauteur de l'enjeu.
Certains pays appliquent le vote obligatoire comme la Belgique, le Luxembourg ou encore la Grèce. Qu'en pensez-vous ? La contrainte n'est pas une bonne chose pour Fernand sur la page Facebook RTL. Les 8 ans, la parole. Il y aura des manifestations si l'on va dans ce sens, prévient José. Pour Julien, voter doit rester un droit, un choix. Evelyne préfère le vote électronique pour lutter contre cette abstention. Et oui à l'obligation, lance Thierry, si l'on rend l'honnêteté en politique obligatoire.
Merci Laurent. Nous sommes avec Pierre sur ce vote obligatoire. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes prof d'histoire et ça va être intéressant de vous écouter parce que vous êtes pour le vote obligatoire. Quels arguments ?
Alors écoutez, je suis pour mais avec certaines conditions. Parce que j'ai bien entendu ce qu'avaient dit les deux auditeurs précédents et en grande partie je partage beaucoup leur point de vue. par rapport à la première personne qui parlait de l'éducation civique, on en fait, mais il est extrêmement important de prendre en compte le fait que les jeunes, et je pense les gens d'une façon générale aujourd'hui, sont en décrochage total avec le politique. Donc rendre le vote obligatoire, déjà je pense que c'est important parce que il y a des gens qui se sont battus pendant quasiment deux siècles pour qu'on en arrive à pouvoir avoir le droit de voter. Et laisser ce droit de côté, si vous voulez, moi, ça me pose un petit problème par rapport à tout ce passé et par rapport à toute cette énergie que beaucoup ont déployée pour y arriver, pour finalement aujourd'hui voir que beaucoup de gens ne s'en servent pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que si on rend le vote obligatoire, il faut que les gens puissent dire et que ce soit reconnu qui ne sont d'accord ni avec les uns ni avec les autres. Ça veut donc dire reconnaître le vote blanc comme un suffrage exprimé. Alors effectivement, ça pose un problème constitutionnel, mais je pense que les politiques, devant ce problème constitutionnel, seraient peut-être eux aussi à même de changer leur discours, leur pratique, leur façon de faire, qui ne changent pas, qui sont toujours les mêmes. On l'a bien vu avec le gouvernement de M. Macron qui s'est présenté comme quelqu'un qui voulait être en rupture avec le fonctionnement, on va dire, politique habituel. En fait, on a fonctionné exactement de la même manière. Donc, à partir du moment où une majorité de gens votent blanc, eh ben, il faut que les politiques, quelque part, puissent se dire y a un truc qui cloche. Et donc, il faut répondre à ce
point. C'est peut-être un peu une hypocrisie, parce que le vote blanc, l'abstention, c'est une forme de vote blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ne viennent pas, ça doit déjà poser des questions aux politiques. Ce que je disais tout à l'heure, le politique a perdu son prestige et son pouvoir. À quoi bon voter pour certains, puisque rien ne change? Et notamment les classes populaires ne votent plus parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas écoutées, que quoi qu'il arrive, rien ne changera.
Ouais, mais parce que je
sais pas
pense
ce qu'il faut,
mettre
qu'il
les politiques
change,
devant le... Ouais, mais il faut mettre les politiques devant le fait, devant l'obligation de changer. Et
oui,
peut-être qu'en reconnaissant ce vote blanc et comme un suffrage exprimé, ça pourrait être quelque chose qui les pousse à le faire. Parce que on est bloqué, quoi. On le voit bien. Le mouvement des Gilets jaunes a montré à quel point les gens aujourd'hui font plus confiance au bulletin de vote.
Mais
quoi.
J'entends ce que vous dites, mais en même temps, les listes qui se présentent et qui sont parfois disruptives, comme on dit, ou même au nom des Gilets jaunes, elles font 0% à l'arrivée, ou entre 0 et 2%, elles ne recueillent aucun suffrage. Quelle autre méthode, quel autre moyen que la démocratie représentative? Moi, j'en connais pas d'autres. Si vous en avez, mais faut. Donc,
je veux dire,
les Gilets jaunes, qui présentent des listes, et ils en ont présenté, c'est un drame.
Ouais, ben oui, parce que je pense que sur le fond, le mouvement des Gilets jaunes, il est minoritaire. Donc c'est pour ça que...
C'est ce qu'on appelle des minorités actives.
Voilà, exactement.
C'est des minorités actives. Bon,
là,
Jeanne voulait peut-être vous répondre là-dessus, puisque Jeanne, elle n'était pas pour le vote obligatoire. Peut-être que Jeanne a un mot à dire.
J'aurais souhaité, comme ce monsieur est prof d'histoire, est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de mettre des choses en place pour que nos jeunes puissent se rendre dans des conseils départementaux, voir avec leurs conseillers justement dans leur canton, s'ils pouvaient voir le fonctionnement d'un conseil départemental, d'une région. Alors à l'Élysée, ça va peut-être être compliqué d'y aller, je pense qu'il va falloir demander à M. Macron. Mmh. Mais ce serait bien qu'on leur montre toutes ces choses-là et qu'ils se fassent leurs idées aussi en se disant « Tiens, un département s'occupe d'un collège, tiens, une région s'occupe d'un lycée, le département s'occupe du handicap ». Il y a tellement de choses que les gens ne savent pas, ne connaissent pas les compétences, et je trouve que c'est super important parce que c'est le quotidien, c'est la vie des gens tous les jours.
Bon, Xavier, qui est chef d'entreprise, souhaite également le vote obligatoire. C'est fou ce que vous voulez comme obligation. Le vaccin obligatoire. Je disais tout à l'heure, alors le vaccin, le masque obligatoire, maintenant le vote obligatoire. Moins il y a d'obligations, plus je suis content, moi, Xavier.
Moi aussi, Pascal, bonjour.
Bonjour.
C'est un oui mais. C'est un oui mais. Ça signifie qu'il faudrait changer la Constitution, comme l'a expliqué votre intervenant tout à l'heure et comme est revenu dessus Pierre à l'instant. Il faudrait reconnaître, en tant que suffrage exprimé, les votes blancs, les votes nuls, et instituer un système de quorum, chose que je vous ai dite il y a déjà 2 ans et vous m'aviez rigolé au nez quand j'ai parlé de quorum.
C'est possible, parfois je souris rapidement.
Le quorum, c'est notamment ce dont on a besoin pour changer une loi ou la constitution avec un certain nombre de députés qui votent aux 2/3 pour faire un changement de constitution par exemple.
Et ben c'est pas mal un quorum,
pourquoi ne pas faire un système de quorum où si vous avez moins de 50% des personnes qui se sont présentées à la votation n'ont pas reçu de suffrage, eh bien, on invalide.
Mais ça existe déjà, il faut un quorum dans les élections en France.
On n'en a pas actuellement.
Vous
avez 36% des gens qui sont allés voter et vous en avez, je ne sais pas combien, qui se sont abstenus. Si tous les gens qui s'abstiennent vont voter blanc parce qu'ils y sont obligés d'aller voter, là, vous pouvez instituer un système de quorum. Les gens sont tous représentés, tous les votes sont représentés. Les gens ne vont pas voter parce qu'ils savent que ça ne sert à rien et qu'on ne compte pas les votes blancs et les votes nuls. Donc les gens sont complètement désintéressés. Il n'y a plus aucun dialogue en France depuis une vingtaine d'années. Il faut se rappeler de l'année 2005 où M. Sarkozy a fait un référendum. Les gens ont dit non à plus d'Europe. Il est passé par le Parlement pour faire voter cette décision alors que les gens ont dit non. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens ne soient plus intéressés par les politiciens.
Non, mais c'est vrai que cette élection de 2005...
Ils n'ont aucun intérêt à changer le système actuel, parce que tout le monde aime manger à cette bonne gamelle, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Quel est l'intérêt pour le gouvernement, pour les députés, pour les sénateurs de réformer le système? La place est tellement bonne. Tellement bonne,
franchement, parfois, je suis pas sûr. C'est, ce que vous dites, c'est intéressant.
Gens, vous mais... voyez des gens tels que des ministres qui gagnaient des dizaines de milliers d'euros par mois, qui deviennent ministres et qui vont gagner 3-4 fois moins. Pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Pour nos beaux yeux?
Eh bien, je pense pas.
Il y a énormément d'intérêts.
Mais non, je crois pas.
Il y a énormément de compromissions.
Je crois pas.
Il y a beaucoup de conflits d'intérêts.
Je crois pas, Xavier. Je crois pas. Alors, d'abord, vous avez peut-être raison.
Et quand vous parliez des petits partis qui ne peuvent pas, vivre par rapport aux partis en place, eh bien, c'est tout à fait ce que je vous explique. Tous les partis actuels, vous dites qu'on a une très large offre politique. Et que finalement on a l'embarras du choix, c'est totalement faux.
Donc,
tous
Xavier,
les partis proposent la même chose, ils proposent plus d'État, plus d'impôts, plus d'Europe.
Xavier,
ça nous a rapporté
l'Europe. Xavier, d'abord vous avez peut-être raison. D'abord vous avez peut-être raison quand vous dites la place est bonne. Mais prenons l'exemple de Dupond-Moretti, qui effectivement, en tant que grand avocat, gagnait je ne sais pas combien, mais en tout cas beaucoup plus qu'il ne gagne comme ministre. Vous dites la place est bonne. Depuis qu'il est ministre, il est ou brocardé au minimum, ou parfois raillé, voire insulté. Alors pourquoi vient-il? Ça, c'est une bonne question. Attirance du pouvoir, c'est pas que la place est bonne, mais attirance du pouvoir, parce que les hommes sont ainsi faits. La vanité, parce que ça existe. Effectivement, tu as été ministre de la République, ça existe. Être au cœur, vraiment, de l'action de ton pays. Mais je suis pas sûr, à l'arrivée, une fois qu'il sera sorti, il se dira peut-être, j'étais mieux à ma place d'avocat. Et pour tout vous dire, comme c'est de plus en plus difficile d'exercer le pouvoir, le problème des prochaines années, c'est peut-être que de moins en moins de gens voudront y aller. Et notamment des gens de qualité qui se diront il n'y a que des coups à prendre et je suis mieux dans le privé à faire ce que je fais. Merci Xavier en tout cas. Merci, vous êtes dans le privé vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Et on va parler d'Éric Zemmour dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je dois vous donner une information que me fait parvenir à l'instant Philippe Robuchon. Il y a 10 jours, Myriam, 31 ans, une jeune mère de famille d'origine italienne, était morte à Paris après avoir été percutée par une trottinette électrique, voie Georges Pompidou. Des témoins avaient signalé à la police que deux jeunes femmes étaient sur cette trottinette et qu'elles avaient pris la fuite. Elles viennent d'être interpellées. Elles ont environ 25 ans et sont infirmière. Laurent.
Vous allez pouvoir réagir dans quelques secondes à Éric Zemmour. Le recul du Rassemblement National au premier tour des régionales peut-il lui profiter? Le polémiste doit-il être candidat à la présidentielle? Peut-il jouer un rôle dans cette élection? La présidente du RN, Marine Le Pen, était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Je pense que Éric Zemmour, parce qu'il est attaché très certainement à l'honnêteté intellectuelle, devrait maintenant dire s'il est ou s'il n'est pas candidat. Mais il ne peut pas être candidat, tenir des propos de candidat en se cachant derrière le rôle d'éditorialiste. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Pour Thierry sur nos réseaux sociaux, tout le monde fait une fixette sur le RN et La République En Marche. Attention, on pourrait avoir une surprise. Qu'il se présente, demande Bertrand, il a droit de le faire. Après, je ne suis pas convaincu du résultat. Marie en est persuadée, sa candidature ferait du mal à Marine Le Pen. S'il était vraiment patriote, il la laisserait tranquille. Alors, Éric Zemmour doit-il être candidat à la présidentielle? 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Eh bien, on vous pose la question avec Jacques. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Pascal.
Qui habite dans le Jura, qui est télévendeur et qui nous appelle, j'ai envie de dire, régulièrement, Jacques.
Oui, oui, et puis moi, je n'ai pas changé de profession et je n'ai pas changé d'entreprise, fidèle.
Bon, est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour va se présenter? Est-ce que vous pensez qu'il devrait se présenter?
Oh, il est capable de tout, Éric Zemmour, vous savez. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais plutôt en tant que son vrai métier, c'est-à-dire un polémiste, hein. C'est quelqu'un de percutant quand même, hein. Il faut reconnaître qu'il a quand même une intelligence, ce mec, hein. Il est pas, on veut le faire passer pour tout et n'importe quoi, mais il est tout sauf bête. Et je pense que tout ce qu'il fait actuellement, il le fait parce qu'il le pense, et moi je crois qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, et je dis pourquoi pas à la rigueur. On a bien vu arriver Macron alors qu'il venait de nulle part. Hein. Comme mais, vous regardez bien sur le fond.
Mais pour vous, vous le mettez plus proche des Républicains ou vous le mettez plus proche du Rassemblement National ou,
ouais, il est plus proche de Marine Le Pen quand même. Et j'arrive pas à comprendre, mais vous savez, moi je suis pas un politique. Hein. J'arrive pas à comprendre que des gens qu'on croit intelligents, et bien qu'on croit intelligents, n'arrivent pas à s'entendre autour d'une table en disant bon, on n'est pas d'accord sur tout. On a vu ça avec les communistes et les socialistes. On n'est pas d'accord sur tout, mais pourquoi pas aller à la bataille ensemble? Et après, on verra ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Mais c'est des gens qui sont intelligents, j'arrive pas à comprendre pourquoi.
Bah, ils sont pas sur la même ligne, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Au-delà des personnalités, vous savez, il y a beaucoup de points de différence. Et ouais, Éric Zemmour, il reproche par exemple à Marine Le Pen aujourd'hui de céder par exemple sur l'Europe.
Je vais vous dire, Pascal, à l'époque, quand vous aviez le PC et le PS. Ils n'avaient pas les mêmes idées non plus.
Non.
Et on a bien eu un communiste ministre des transports.
Oui, bien sûr, c'est le programme commun en 71 ou 72, vous avez raison.
Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout.
Mais il y a des ambitions personnelles, Jacques, vous le savez bien.
Mais vous avez tout compris, il n'y a que de l'ego. Vous parliez un tout petit peu d'avant du pont Moretti. Je suis d'accord avec vous. Il aurait voulu être peinard, il restait avocat, et il prenait beaucoup plus de thunes qu'en étant ministre. Hein. Je me souviens ce que disait Tapie, hein. La seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir fait de la politique. Mais après, c'est le problème d'ego. Zemmour, il se regarde, il s'écoute, et il a envie d'y aller. Il a envie d'aller. Et puis je pense qu'il a surtout envie d'avoir tous les médias.
Il les a déjà, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de lui, Éric Zemmour, vous savez.
Encore plus.
Il va prendre des coups.
Alors je peux vous dire qu'il va en prendre, il sait les prendre, et je peux vous dire que...
Qu'il sait les prendre, vous savez, ça c'est une bonne question. C'est à l'épreuve du feu, parfois, qu'on sait si on sait les prendre ou pas.
Pascal, j'en ai pas vu un, et pourtant j'ai regardé beaucoup d'émissions avec lui, j'en ai pas vu encore un, le mettre à genoux, hein, quand même.
Ah oui, non, mais ces coups-là, vous avez raison, il est brillant
Il n'est pas facile à toucher. Hein.
Il est brillant dans le débat. Après, il y a des coups dans une présidentielle, il y a ce qu'on appelle boules puantes parfois. C'est ça qui peut être parfois compliqué, forcément. Vous pensez qu'il ira, vous, Jacques, par exemple, votre intuition?
J'ai le sentiment qu'il va y aller.
Bon. Bah écoutez, pour tout vous dire, vous le savez, je le vois tous les jours et je le taquine.
L'aspect financier, peut-être. Ça coûte cher, hein.
Oui, il faut avoir effectivement un groupe. Alors, moi, je le vois tous les jours dans une autre station que celle d'RTL. Et alors, je le taquine, forcément. Je lui dis, alors, tu y vas ou tu n'y vas pas? Donc, il rit, il sourit. Je lui dis, tu me le diras à moi en premier, j'espère. Il rit de nouveau, etc. Donc, on a un échange. Je suis incapable de vous dire s'il ira ou pas. Le lundi, je me dis, tiens, j'ai l'impression que là, il a plutôt envie d'y aller. Et puis le mardi, je me dis, il est quand même pas fou, il sait bien ce qu'il a à perdre dans cette aventure, etc. Donc, ça va être intéressant. Mais il est possible que dimanche, le scrutin lui ait donné des éléments nouveaux. Et on va réfléchir à cette question, d'ailleurs, après la pause. Monsieur Caradoni, il n'y a pas de chanson aujourd'hui.
Bah non, mais demandez-moi quelque chose et j'essaierai de le trouver.
Demandez-moi.
Ah, vous inventez une chanson pour moi?
Tout ce que vous voulez.
Quel honneur.
Vous connaissez pas cette chanson?
Ah non.
Le géant de papier.
Ah,
demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous connaissez pas le géant de papier?
Si, je la connais très bien, je l'ai pas reconnu, c'est tout.
Il est méchant. C'est ça qui est... Il n'y peut rien, il est méchant. On aura Philippe Sanfourche, j'espère, entre 14h et 14h30.
Il a prévu de se connecter, absolument.
Bah oui, parce qu'il parle le soir, mais il ne veut pas nous parler à nous le midi. Donc je suis fâché.
Bah c'est faux, puisqu'il va se connecter tout à l'heure.
J'espère. On va faire un point avec Philippe Sanfourche. Est-ce que cette équipe de France vous a convaincu? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ah, carrément le drapeau.
Je Je suis un géant de papier.
Formidable chanson, ça.
Pascal agite le drapeau français qui servait de décoration pour hier soir, pour les Bleus, en dansant sur la chanson que nous écoutons actuellement.
Je danse tout seul. C'est un peu l'histoire de ma vie. Dites-moi, nous sommes avec Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour. Dites, pour votre conversion, chanteur, ça pourrait le faire. Hein.
Mais ne dites
pas
ça.
Ne
dites pas ça, Greg Carradini. Bon, Éric Zemmour, vous êtes. Parlez-moi d'Éric Zemmour et.
Je vais vous parler.
Dites-moi ce que vous en pensez et où vous le placez sur l'échiquier politique.
Alors, déjà, première chose, il déplaît énormément à la jeunesse. Déjà, donc ça, il faut qu'il le sache. J'espère qu'il entend votre émission.
Écoutez, ça, faut le dire vite, hein, parce que ça dépend à quelle jeunesse.
Non. Il déplaît énormément à la jeunesse, et je dois dire que voilà.
Vous seriez surpris.
Qu'il reste à sa place. C'est un très bon polémiste. Voilà, il reste à sa place, c'est très bien. De toute façon, pour le Rassemblement national, moi, je vais être plus direct. Il y a deux choses. Enfin, maintenant, il y a deux choses, mais il y a une chose qu'il faudrait surtout changer, c'est Marine Le Pen. Voilà.
Ah ben.
Donc, vous changez Marine Le Pen et le Rassemblement National passe. Donc,
Et vous mettez qui à sa place?
Ah ben, peu importe, mais pas elle. Français ne veulent pas d'elle. C'est tout. Moi, je suis
mais vous mettez qui pour incarner le Rassemblement National? Et moi, je voudrais bien qu'on me dise aujourd'hui ce qu'est le Rassemblement National, ça m'intéresserait. Parce que vraiment, je m'y perds. Pour tout vous dire, je m'y perds sur la ligne éditoriale ou politique du Rassemblement National depuis 5 ans.
Oui, et bien c'est pour ça que je vous dis, il faut que Mme Le Pen s'en aille, qu'on oublie le nom de Le Pen et que ce soit repris par des gens qui ont un fondement, qui...
Et Éric Zemmour, ça vous convient pas?
Ah non, pas du tout. Non.
Mais alors, ça serait qui? Vous êtes candidat du... Vous êtes électeur du Rassemblement National?
Plutôt.
D'accord.
Pas 100%, mais plutôt.
Et alors, quel est pour vous celui ou celle qui incarnerait le mieux la relève?
Honnêtement, je ne connais pas suffisamment l'ensemble des cadres pour vous répondre.
D'accord.
Mais je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des gens qui sortent de l'ombre.
D'accord. Mais revenons sur Zemmour, puisque c'est notre sujet. Voilà. Zemmour, il reste à sa place, polémiste pour vous.
Ouais, c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il continue d'incarner la polémique, mais non.
Il incarne aussi un courant conservateur très puissant.
Non, il va se prendre une grande claque, c'est tout ce qu'il va prendre, et en plus, il va se faire sortir de tous les médias après. Donc moi, je l'invite à revoir sa position.
Après, je ne sais pas, pendant, forcément, mais après, c'est autre chose.
Qui reste à sa place, il a son auditoire. Voilà, moi, je l'apprécie parfois.
Pour vous, c'est quelle ligne, Éric Zemmour?
Oh, c'est quand même. Il a quand même des propos, je dirais. Moi, je pense que c'est un individu qui peut entraîner de la violence chez ceux qui peuvent pas le, qui sont pas d'accord avec son courant d'idées.
Ah, ça, je vous le confirme. Effectivement, qu'il déclenche une forme d'intolérance, parfois très grande à ses propos. Mais c'était pas vraiment ma question. Pour vous, c'est.
Voilà, pour moi, donc, il faut pas ce genre de personnage au jour d'aujourd'hui.
Bah merci Patrick, tout cas de votre franchise, et vous pouvez rester bien sûr.
Faites-nous un petit coup de chanson de temps en temps. Quand
Si vous le souhaitez, à la demande générale.
À la mienne du moins.
Bon, vous êtes gentil. Fabrice, qui est policier, bonjour.
Bonjour Pascal Pro.
Est-ce qu'Éric Zemmour doit se présenter selon vous, et est-ce que les résultats de dimanche favorisent pourquoi pas une candidature Zemmour?
Évidemment, pour moi, ça sera le meilleur arbitrage de la prochaine élection présidentielle.
Et pourquoi ?
Il faut arbitrer un petit peu le duel Monsieur Macron et Marine Le Pen annoncé. C'est-à-dire que, comme l'a dit votre auditeur précédent, qui tient plus au Rassemblement National, sans pouvoir donner un nom sur éventuellement qui pourrait incarner le mieux le Rassemblement National. Je pense que M. Emmanuel Macron, il y a 6 ans, on ne le connaissait pas. M. Zemmour, on le connaît. On sait que c'est une personne très fidèle à sa France.
Qu'est-ce que vous aimez chez Éric Zemmour?
Voilà, le fait qu'il puisse défendre les valeurs et les droits français, avant tout.
C'est quoi les valeurs et les droits français?
Les valeurs, c'est certainement une justice un petit peu plus juste pour tout le monde. Pour tout le monde, je dis bien.
Donc c'est ce que vous retenez principalement du discours d'Éric Zemmour, la justice.
Bah, la justice et les valeurs de la France et la défense aussi de l'Europe que Marine Le Pen a un petit peu abandonné pour essayer de séduire la gifle hein, qu'elle a pris lors du dernier débat face à Emmanuel Macron. Et je pense que pour Emmanuel Macron, qui a déjà sorti des dossiers dans des candidatures comme Monsieur Fillon, ça sera facile pour lui d'aller chercher un dossier sur Monsieur Zemmour. Mais Monsieur Zemmour a toujours été peut-être poursuivi ou a été en justice et la plupart du temps a été relaxé. Donc moi, Monsieur Zemmour n'est pas un humoriste, n'est pas Monsieur Bigard, n'est pas des personnes.
Ah oui, Éric Zemmour n'est pas Bigard, ça je vous le confirme aussi.
N'est pas un trublion, mais défend les valeurs républicaines de la France. Et je pense que ce score en étonnerait plus d'un. Et on ne peut pas dire que la jeunesse ne voterait pas pour M. Éric Zemmour. Je pense qu'il faut le connaître depuis un certain temps pour mieux le comprendre. Et je pense que, comme vous l'avez très bien souligné sur votre antenne, vous avez l'opportunité de le côtoyer. Et je ne pense pas que ce soit votre ennemi, bien au contraire.
Ah non. Pas du tout un ennemi. Moi, je le connais plutôt bien, effectivement. Je l'apprécie, comme beaucoup de gens. J'apprécie son intelligence, sa culture, sa profondeur historique, la qualité de ses analyses. Vraiment, je trouve que c'est un des journalistes les plus brillants de sa génération, c'est incontestable. C'est un idéologue, et pour l'idéologue, tout doit rentrer dans la bouteille. Et c'est parfois là que je suis en désaccord avec lui, c'est que l'idéologue a une grille de lecture qu'il applique toujours et tout le temps. Et peut-être plus de pragmatisme de temps en temps doit venir percuter le discours de l'idéologue. Peut-être.
Qu'il pourra assouplir justement.
Mais c'est un conservateur et sur certaines choses, moi je rejoins effectivement sa volonté sur la culture, sur l'écriture, sur l'histoire, sur le fait que la France existait avant la République. Ça c'est un de ses thèmes très forts, que la France elle a existé avant 1792 ou avant 1789 et que cette histoire-là doit être enseignée aussi et doit être saluée. Donc je peux le rejoindre sur ces thèmes-là. Il est 13h38, on va marquer une pause et on va continuer la discussion avec ou sans chanson avec Greg Caranoni. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. On doit faire beaucoup mieux sur la vaccination. Ce sont les mots de Jean Castex ce matin en déplacement dans les Landes. Le Premier ministre déplore la baisse du nombre de premières doses injectées chaque jour.
Ça fait deux ou trois jours où nous vaccinons en première vaccination 200 000 personnes par jour. C'est trop peu. On a fait beaucoup mieux. Ayez peur du virus. N'ayez surtout pas peur du vaccin.
Et vous pourrez agir dans l'émission dans quelques instants. Les Bleus sont en 8e de finale de l'Euro. Venez au 32-10 faire le bilan de la phase de groupe. Une victoire contre l'Allemagne, match nul contre la Hongrie. Et le Portugal hier soir, 2 buts partout contre les Portugais avec un doublé. Et on l'attendait de Karim Benzema.
Je savais très bien, en revenant en sélection, les critiques. Ça fait partie, je dirais, du foot. Dans tous les cas, je baisse jamais les bras. Sachez que moi, à chaque fois que je sur un terrain, j'ai envie de marquer. Je m'entraîne beaucoup, sans arrêt. Après, la pression, c'est comme ça.
Êtes-vous convaincu par cette équipe de France? Benzema est enfin lancé, écrit David sur la page Facebook de l'émission. C'est le déclic. Tout va changer, les filets vont continuer de trembler. Bravo aux joueurs. Applaudit Fabien. Mais Carole s'inquiète des blessures. J'espère que nous aurons encore des arrières-gauches dans quelques jours. La France affrontera la Suisse en 8e de finale lundi soir à 21h. Attention aux petits Suisses, prévient José, qui sont très bons. Jeu de mots.
Le recul du Rassemblement National au premier tour des régionales peut-il profiter à Éric Zemmour? Le polémiste doit-il être candidat à la présidentielle? Peut-il jouer un rôle dans cette élection? C'est une des questions que nous posons. Nous sommes avec Patrice. Bonjour Patrice, vous habitez dans le Var.
Bonjour Pascal, comment allez-vous?
Je vais très bien. Est-ce que vous êtes un fan d'Éric Zemmour?
Ah, tout à fait Pascal, parce que franchement, il a absolument... Parce que de toute façon, on avait parlé ensemble, tous les deux, du mot jadis.
Oui.
Et en fait, Éric Zemmour... je suis tout
c'est monsieur débats, jadis en
fait. oui jadis, parce que jadis c'est les années 70.
Oui. Non mais est-ce que c'est les... monsieur jadis Éric Zemmour?
Non, c'est parce qu'il y a un lien avec jadis en fait, parce que j'ai suivi un débat avec Jacques Attali et Éric Zemmour, et Éric Zemmour il dit, parce qu'en fait il a absolument raison, on a cassé l'ascenseur social, c'est-à-dire l'inflation des prix et l'indexation des salaires. Ce qui fait que le pouvoir d'achat a diminué. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation, en fait, avec des licenciements à tour de bras, les délocalisations, la crise sanitaire, parce que c'est un lien avec ça aussi, puisque sur le SMIC, vous savez, comme j'ai dit à votre collaborateur tout à l'heure, le SMIC, normalement, s'il était resté indexé par rapport à jadis, il serait à 1700 euros par mois, actuellement en net, hein. Donc là, 1230 euros, forcément, il ne faut pas s'étonner.
Mais quel est le rapport avec Éric Zemmour ?
Eh ben parce que Éric Zemmour dénonce cela, il le dit, avec les débats, notamment avec Jacques Attali. Alors j'appelle les auditeurs d'RTL à reprendre le débat Éric Zemmour-Jacques Attali, et alors là, ils auront tout compris.
Et qu'est-ce que vous appréciez aussi chez lui, ou peut-être ce que vous aimez moins ?
Sa sincérité. Voilà, sa sincérité. Et alors je profite que j'ai l'antenne parce que, alors Eric, si tu m'entends, je me permets, hein, comme ça, parce que c'est franchement, ça sort du cœur, hein, ça sort du cœur. Présente-toi aux élections présidentielles, vas-y.
Et vous pensez qu'il fera un bon score ?
Ah oui, oui, oui.
Mais l'offre qu'il représente, vous pensez qu'elle n'est pas déjà présente aujourd'hui dans l'offre politique ?
Non, absolument pas. Absolument pas. Parce qu'en fait, alors on est, enfin Pascal, voilà, on est dans un espèce de d'étau, quoi. C'est-à-dire, il y a Florent Philippot qui propose le Frexit, donc pourquoi pas, sauf que la conversion de monnaie est 1 franc, 1 euro. Donc là, j'ai un problème avec ça. Voilà. Alors, Éric Zemmour dit qu'il ne faut pas sortir de l'euro d'un coup. C'est-à-dire, faut déjà essayer de rattraper la chose, la situation, en fait. De réindustrialiser la France, un temps soit peu.
Bah merci Patrice. Hein,
de... Non, Pascal, merci. Pascal, oui. Pascal, je voudrais rajouter un truc.
Je vous en prie.
Dans le Jura, vous avez vu ce qui se passe ?
Non, quoi
La fonderie.
La fonderie est...
Il licencie des personnes. Et c'est récent, c'est tout à fait récent. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est possible. Mais allez sur Internet, sur YouTube, et vous verrez, les salariés, ils sont au bout du rouleau, ils sont licenciés. Et c'est une petite fonderie de, je ne sais pas combien, 200, 300 personnes. Voilà.
C'est la fonderie liquidée. Effectivement, il y a 300 emplois qui sont supprimés. Et c'est,
voilà, dans le Jura, c'est ça, Pascal ?
Exactement, c'est la fonderie automobile MBF de Saint-Claude, qui employait 270 salariés. Ça a été prononcé mardi à Dijon, et on l'a appris de sources syndicales. Et c'est effectivement une illustration, Pascal, de la désindustrialisation du pays.
Voilà, Pascal, je voudrais juste... Dernier truc. Dans la vidéo, si vous tombez sur la vidéo, ils retournent une voiture des salariés pour montrer des pièces qui étaient fabriquées en France sur place, sur site.
Et qui sont évidemment fabriquées aujourd'hui dans un autre pays, là où la main-d'œuvre sans doute est moins chère. Merci Patrice.
De rien Pascal, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, Rock est là, mais Rock, ce sera peut-être après la publicité. Dans une seconde.
Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je ne voulais rien ajouter parce que nous parlons d'Éric Zemmour. Et puis on pourra en parler bien sûr de football tout à l'heure. Donc ce sera avec un plaisir. Vous nous donnerez... On n'a pas parlé du clash entre Darmanin et Dupond-Moretti. Vous n'avez pas la musique de Rocky ?
Eye of a Tiger.
Voilà.
Si, cette musique. Je vais
ça serait pas mal. Tiens, on pourrait le faire comme ça. Si vous l'avez, je peux vous faire une bande-annonce.
Ah, vous voulez me faire ça ?
Oui. À tout de suite.
Après la pub, parfait.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Sous les lambris de l'Élysée, The Match. Éric Dupond-Moretti, 1m80, 92 kilos. Gérald Darmanin, 1m75, 75 kilos. La justice contre l'intérieur. Deux ministres régaliens. Et si le gagnant n'était pas celui qu'on sait ?
C'est pas mal, hein ?
Franchement, je suis pas sûr du poids et détail.
Vous avez une...
Je suis pas sûr du poids et détail. Ouais, mais enfin bon. Je mets un peu de dérision, mais il en faut quand même. Ce qu'on a appris, c'est Vincent de Rosier, même s'il disait tout à l'heure que les deux hommes n'en sont pas venus aux mains, ce qu'on apprend quand même de deux ministres qui... entre en contact d'une manière un peu virile devant des huissiers, devant le président de la République qui passait, devant le Premier ministre qui arrivait. C'est quand même étrange, convenez-en. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'est passé hier et depuis, silence radio. Pas de communiqué, on ne sait pas s'ils se sont parlé. Visiblement, Vincent Derosier disait ils ne se sont pas parlé tout à l'heure. Pas de mise au point, rien. Deux ministres régaliens, parmi les plus importants de la République, qui doivent travailler tout le temps ensemble. Ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. Rien. Silence radio. Étonnant. Et après, on dit les gens ne vont plus voter. Bah, effectivement, ce n'est pas un spectacle qui incite à croire en nos représentants. Roch est là. Bonjour Roch.
Bonjour Pascal.
Vous êtes agriculteur dans le Rhône.
Exactement.
Alors Éric Zemmour, est-ce que vous imaginez sa candidature ?
Alors juste d'abord, je vais vous remercier pour toutes vos émissions qui sont passionnantes, pour votre honnêteté intellectuelle et votre esprit taquin.
Taquin, c'est le mot. Je revendique.
Pour revenir sur le sujet, Éric Zemmour et Marine Le Pen à 98% disent la même chose. Moi, je suis d'accord grosso modo avec les deux, et je pense qu'il serait bon qu'ils arrêtent et l'un et l'autre de se taper dessus, et qu'on arrête d'avoir la droite la plus bête du monde qui se désunit quand on est proche du pouvoir. Et qu'on fasse un peu comme la gauche, qu'on se serre les coudes et qu'on y aille ensemble à la victoire, parce que le pays en a besoin.
Mais alors, sur l'échiquier politique, je pose un peu toujours les mêmes questions, vous le placez où, Éric Zemmour ?
Il est entre le Front National et le Rassemblement National et les Républicains. Au niveau des idées, je dirais qu'il est à 98% comme le Rassemblement National, et au niveau de la classe sociale et du niveau intellectuel, il est plutôt du côté des Républicains. C'est la différence que je mettrais entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est ça, c'est que Zemmour est vraiment un intellectuel, tandis que Marine Le Pen est vraiment plus quelqu'un du peuple pragmatique. Et moi, je préférerais presque Marine Le Pen, parce qu'on a eu depuis 40 ans des dirigeants brillants intellectuellement et qui pourtant nous ont amenés à l'abîme. Alors peut-être que des gens un peu plus, peut-être moins intellectuels, mais beaucoup plus pragmatiques avec le sens du réel, redresserait le pays. Voilà.
C'est intéressant parce que j'ai eu 4 ou 5 auditeurs. À chaque fois, j'ai posé la question sur l'échiquier, où placer Éric Zemmour. Personne ne m'a dit qu'il est d'extrême droite. Donc c'est intéressant parce qu'il est qualifié généralement dans la bulle médiatique comme extrême droite. Est-ce que vous diriez qu'Éric Zemmour est d'extrême droite ?
Non, mais ni Marine Le Pen d'ailleurs. L'extrême droite, c'est un adjectif qui tout de suite vous disqualifie du débat. Alors après, c'est sûr que si on parle vraiment sur l'échiquier politique, effectivement, Marine Le Pen est plus à droite que les Républicains, et Éric Zemmour est plus à droite que les Républicains, mais de là à dire qu'il est d'extrême droite, comme le sens premier que tout le monde entend, non, pas du tout.
Et quand vous entendez, par exemple, toujours dans cette bulle médiatique, la qualification d'extrême droite qui est posée sur un polémiste, ou même parfois un acteur de la vie politique comme Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben que c'est pour disqualifier ceux qui défendent ces idées de souveraineté, d'identité, d'arrêt de l'immigration, de défense de la valeur travail, de la responsabilité, de l'esprit d'entreprendre. Voilà. Mais juste, moi, je voudrais quand même rajouter, depuis 40 ans, c'est quand même le Rassemblement National qui se bat sur tous les sujets fondamentaux, c'est-à-dire l'identité, l'arrêt de l'immigration, les libertés économiques, bien que on a quand même observé un certain virage à gauche de Marine Le Pen, mais je pense qu'elle reste quand même dans la vérité malgré ce petit changement. Bon, bref, c'est le Front National et le Rassemblement National qui ont défendu depuis toujours ces sujets, et je trouve un peu dommage quand même qu'Éric Zemmour arrive, entre guillemets, un peu tard, bien qu'il ait toujours eu ce discours-là, mais qu'arriver maintenant et qu'il tape comme il l'a fait depuis lundi sur le Rassemblement National, je trouve vraiment que c'est...
C'est-à-dire qu'il y a un problème personnel sans doute entre lui et Marine Le Pen, puisqu'effectivement on devine qu'ils ne s'entendent pas. Et puis je le répète, la ligne du Rassemblement National, faudra qu'on m'explique exactement quelle est cette ligne. Parce que non, sur le plan sérieux, économique, faudra sérieux. Vraiment qu'on m'explique ce que veut Marine Le Pen. Sur le plan sociétal, sur le plan politique, il y a quand même des choses parfois floues, contradictoires, changeantes. Convenez-en.
Un petit peu.
Sur l'Europe, notamment, sur la Cour européenne. Marine Le Pen voulait, par exemple, l'autre jour, un gouvernement national. Bon.
D'union nationale,
pardonnez-moi. Gouvernement national, c'est la moindre des choses. Mais un gouvernement d'union nationale. C'est pas exactement la ligne d'Éric Zemmour. C'est pas le en même temps, Éric Zemmour. C'est pour ça que c'est intéressant de voir sa ligne, Marine Le Pen, et d'une certaine manière qui a été sanctionnée, puisque ce n'est pas l'ADN de son parti. Son parti est plus protestataire.
Alors, vous venez d'évoquer plusieurs sujets. Pour revenir sur le dernier, l'abstention, c'est que simplement, je pense que moi, je vois dans mon propre entourage. Hein, bon, moi, je suis allé voter parce que je trouve ça inadmissible de pas aller voter. Et beaucoup, beaucoup de gens que j'ai croisés ne sont pas allés voter parce qu'ils le savaient pas, parce qu'ils ont évoqué un certain désintérêt. Mais c'est pas une sanction de Marine Le Pen en tant que telle. Non, je pense pas.
Bon ben merci Roch, vous étiez le dernier auditeur sur ce sujet Zemmour et nul doute que c'est un sujet qui peut nous intéresser encore pendant quelques jours voire quelques semaines.
En tout cas merci Pascal.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Football avec Aurélie. Football. Bonjour Aurélie, vous êtes infirmière.
Oui, bonjour Pascal, tout à fait, je suis infirmière, oui.
Donc vous c'est ne ça. Travaillez pas hier soir ?
Je ne travaillais pas hier soir, heureusement. Bon. Sinon, je me ferais faire remplacer, on va dire.
Ah oui, mais si tout le monde, si toutes les infirmiers et infirmières se font remplacer dans les hôpitaux.
Écoutez, en ce moment, on donne beaucoup de nous, donc il nous faut la partie plaisir et heureusement qu'on a l'équipe de France pour ça, on va dire.
Vous êtes à l'hôpital ?
En libéral.
Alors hier soir, comment ça s'est passé ? Vous avez regardé le match où et avec qui ?
Alors, j'ai regardé le match à la maison avec tout le petit groupe qu'on a d'habitude, c'est-à-dire mon frère, mon fils, des amis. Voilà, on était une dizaine, on va dire.
Et quel sentiment vous avez sur cette équipe de France ?
Alors, moi, je trouve qu'elle fait franchement plaisir à regarder, hein, même si tout, comme je l'ai écrit sur le forum, tout n'est pas rose. C'est vrai qu'en défense, on prend quand même des buts. Bon, il y a des petites choses à régler. Mais en tout cas, je trouve qu'on voit vraiment une envie de faire quelque chose de bien. Et moi, je trouve qu'on a, c'est un beau match, agréable à regarder avec deux belles équipes. Ça promet pour la suite.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est plus forte, cette équipe de France, qu'il y a 3 ans, lorsqu'elle est devenue championne du monde ?
En tout cas, j'ai envie de dire que sur le papier, je dirais oui, sur le papier. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'à la fin, on la gagnera, parce que ça, y a quand même beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Et puis, je crois que là, le tableau, il est un petit peu compliqué quand même. Enfin, tous les favoris sont là. Hein. La France n'est pas, je crois, la seule favorite. Mais sur le papier, elle a fière allure, l'équipe, ça, c'est sûr et certain.
Ouais. Quels sont les joueurs que vous avez préférés à ce jour ?
Ben, alors on va dire que moi, j'avais un petit doute sur Karim Benzema. Je faisais un petit peu partie des gens qui étaient sceptiques à son retour. Et je trouve qu'il a quand même mûri et qu'il a, voilà, c'est un grand joueur, il a sa place. Et il m'a fait lever du siège, donc je pensais pas, donc je dirais Karim Benzema quand même.
Le but qu'il marque est tout à fait remarquable, hein, le sang-froid, la précision, la qualité technique, l'appel de balle, vraiment, il est formidable ce but. Et c'est sans doute le meilleur avant-centre de l'histoire, disons-le, Karim Benzema. Il pourrait être en concurrence avec Jean-Pierre Papin et avec Bernard Lacombe, qui sont les deux grands numéro 9 également du foot français. Sans doute a-t-il un palmarès en club, en tout cas plus important que Lacombe et Papin. Et sans doute est-il plus un cran au-dessus, même s'il n'a pas eu le ballon d'or, alors que Jean-Pierre Papin avait eu un ballon d'or. Donc il y a discussion. On peut poser d'ailleurs la question aux auditeurs. Il est bientôt 14h, Olivier Bois et Thomas Prouton viennent d'entrer dans le studio. Donc il y a de l'info à vous donner dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Et d'abord l'enquête après la mort de cette jeune femme de 31 ans la semaine dernière, renversée en plein Paris par une trottinette. Les conducteurs avaient pris la fuite. Eh bien, deux femmes ont été interpellées, Thomas Proutot.
Absolument, deux femmes de 25 ans, soupçonnées d'être celles qui ont d'abord percuté puis laissé à terre Myriam, une Italienne de 31 ans, sur l'île de la Cité à Paris. Elles ont été interpellées ce matin après 10 jours d'enquête et sont actuellement interrogées par le service de traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police de Paris. Précision troublante, les deux jeunes femmes interpellées sont infirmières, d'après une source policière, des soignantes donc. Or, les deux conductrices de trottinettes ont pris la fuite après le choc, on le disait, alors que la victime gisait au sol. Si les suspectes sont confondues, elles encourent une mise en examen pour homicide involontaire et délit de fuite.
Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Ayez peur du virus, n'ayez pas peur du vaccin. C'est Jean Castex qui s'est exprimé ainsi ce matin, constatant que la vaccination ralentissait en France. Le Premier ministre était en déplacement dans les Landes, hein, qui est le seul département actuellement où le taux d'incidence remonte, même si les niveaux restent sous contrôle. 70% du variant indien détecté là-bas. Il va y avoir donc une augmentation des tests dans la semaine à venir, augmentation des livraisons des doses de vaccins également. Et s'il n'y a pas d'amélioration, Jean Castex affirme que le déconfinement plus total pourrait être décalé dans ce département au-delà du 30 juin. Une information RTL, un TGV a été visé hier soir par des tirs d'armes à feu. Il s'apprêtait à entrer en gare de Marseille-Saint-Charles. Il a été visé. Plusieurs impacts ont été retrouvés sur les vitres notamment. Il n'y a pas eu de blessés. La SNCF va porter plainte. Et puis l'équipe de France, évidemment, qualifiée pour les huitièmes de finale, qui termine première de son groupe après le match nul de partout hier contre le Portugal, de but de Benzema. Mais l'inquiétude pour Lucas Digne, sorti sur blessure. Hier soir, Didier Deschamps n'a pas affiché un visage très optimiste le concernant pour la suite. Le temps de cet après-midi ensoleillé globalement, quelques pluies dans le sud-ouest et le temps qui restera tout de même à l'orage de la vallée du Rhône jusqu'à l'est. Il fera de 18 à 21 degrés dans le nord, 19 à 26 degrés dans le sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
L'équipe de France a donc gagné contre l'Allemagne, elle a fait match nul contre la Hongrie et elle a fait match nul encore contre le Portugal. 5 points en 3 matchs, elle a été très bonne contre l'Allemagne, en difficulté contre la Hongrie et je dirais mitigée contre le Portugal. Une première mi-temps pas bonne et une deuxième mi-temps excellente. Donc vous en parlez, nous en parlons, nous sommes avec Jean-Paul et on sera également avec Monsieur Sansfourche, Philippe, que vous avez peut-être écouté hier sur RTL. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je suis mitigé, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin il y a quelques instants. On a affaire à une équipe de France qui est fatiguée. Elle est fatiguée d'une part parce que la plupart des joueurs aujourd'hui de l'équipe de France jouent dans des grands clubs européens, donc ils ont une saison extrêmement chargée. Hier, Mbappé, il est cuit. Mbappé, il est cuit. On l'a vu hier. Griezmann, il est cuit. Benzema, il est cuit. Alors c'est vrai, il a marqué 2 buts hier, mais on voit bien qu'ils sont fatigués. Alors, ils sont fatigués d'une part parce qu'ils ont eu un match extrêmement compliqué contre les Allemands, encore bien plus compliqué contre les Hongrois. Et là, hier, on passe quand même à côté de la catastrophe. Il faut quand même pas l'oublier.
J'ai pas le sentiment qu'ils sont fatigués. Au contraire, je les trouve plutôt bien sur le plan physique.
Je sais pas. C'est votre avis, Pascal. Moi, je vois ça différemment.
Je les trouve pas émoussés.
Écoutez, quand on n'enchaîne pas 3 passes consécutives, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, soit de fatigue, soit de concentration.
Je trouve que Pogba, par exemple, est plutôt bien. Alors, effectivement, vous, en même temps que vous disiez Mbappé, je me suis dit, c'est peut-être vous qui avez raison. C'est peut-être ça, effectivement, qu'il est un peu fatigué, un peu émoussé quand il manque, notamment en début de match, l'occasion qu'il a.
Jamais il rate ça au PSG, quoi. Jamais.
C'est possible.
Jamais.
On demandera Karim... Philippe Sansfourche d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est déjà là, Philippe, mais ça, c'est une bonne remarque parce qu'il y a peu de gens qui disent ce que vous dites et c'est peut-être vous qui avez finalement la bonne solution, quoi, la bonne analyse.
Je ne sais pas si j'ai la bonne analyse, mais c'est ce que j'ai constaté. Il y a des trucs qu'il a fait hier. Jamais il les aurait ratés. Habituellement, il ne les rate pas. Un face-à-face avec un gardien, Mbappé, c'est but, quoi. Et là, hier, non. Hier, il frappe son gardien. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un gardien exceptionnel hier en face. Il faut quand même pas oublier la frappe de Pogba. Je ne comprends pas comment ça se fait, elle va pas au fond, quoi.
Le gardien, attendez, l'arrêt du gardien, il est magique.
Complètement. Et deux fois, hein.
Oui, deux fois. Hein. Vous avez parfaitement deux raison. Fois. Deux fois. Deux Donc fois. Vous êtes inquiet pour la suite?
Non, je suis pas inquiet parce qu'il y a une préparation quand même qui a été faite et on a un sélectionneur quand même qui a l'expérience. Et puis, excusez-moi du terme que j'ai employé, mais on connaît tous la chatte à des champs. Donc, c'est vrai. Mais c'est un malin. Et puis, c'est quelqu'un qui a, c'est un gagneur déjà. C'est un meneur d'hommes, c'est un gagneur. Dire qu'on va la gagner, je sais pas. Mais si nous, on est fatigués, les autres aussi. C'est-à-dire les grandes nations, on n'a qu'à voir l'Angleterre. Hein. L'Angleterre, c'est pas terrible. Hein.
Vous avez raison, non, il n'y a pas.
Les Portugais hier.
Pas bouleversant non plus.
Sanchez hier, il nous a mis la misère, mais Ronaldo n'a pas été exceptionnel non plus. Donc, moi, c'est tous les joueurs qui jouent dans les grands clubs européens sont, à mon avis, fatigués.
Non, mais après, c'est une piste. C'est une piste, mais quelle est l'équipe? Vous avez raison, d'ailleurs, c'est une bonne question aussi. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné, si tant est qu'une équipe vous ait impressionné depuis le départ?
L'Italie.
C'est vrai que l'Italie, l'Italie a du jus.
L'Italie, c'est pour moi, aujourd'hui, avec la France, les deux favoris. Et je ne sais pas si le tableau, j'ai pas bien fait attention au tableau, mais je ne sais pas si ça permet à la France et à l'Italie de se retrouver en finale. Je ne sais pas.
Je vais regarder. Tiens, effectivement, je vais regarder. On va regarder tout de suite.
C'est Laurent Tessier. Super finale.
Ah ouais, France-Italie. Ah, ouais. Je sais qu'on est dans un tableau de difficile de mémoire, plus difficile que le tableau d'en face, mais je ne sais pas. On est dans le tableau de l'Angleterre et de l'Allemagne. On va vous dire ça. On va vous dire ça tout de suite. On va être sans
l'Allemagne. L'Allemagne passe pas.
C'est quoi la question? C'est le tableau. C'est Greg Caradoni qui me dit le tableau final. Est-ce qu'on peut rencontrer l'Italie avant la finale? C'est ça la question. Oui. Est-ce que l'Italie est dans l'autre tableau? Eh bien, nous marquons une nouvelle pause et on parle football. À tout de suite.
Merci.
À 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Christian-Olivier Veille, le chef du service des sports. Il me dit que Italie-France, c'est possible en demi-finale, Jean-Paul.
Ah ben, ça serait bien quand même.
Ça serait pas mal, mais c'est effectivement une bonne remarque. Merci en tout cas, restez avec nous. Est-ce que Philippe Sanfourche est déjà là?
Philippe Sanfourche.
Ami! Mais vous êtes là, ami! Vous êtes où? Vous êtes à Budapest?
Je suis dans les rues de Budapest et je ne vous cache pas qu'il faut un petit peu se plaquer contre les murs parce qu'il fait 37 degrés. Et c'est vraiment une composante qu'il faut prendre en considération avec l'équipe de France parce qu'il souffre énormément de la chaleur et il va y avoir un vrai travail de récupération. Plutôt que de penser à des schémas tactiques et à savoir si l'adversaire est plus ou moins bien taillé pour l'événement, c'est surtout sur la récupération qu'il va falloir axer.
Et là, vous êtes au téléphone dans la rue ?
Mais tout à fait.
Formidable. Vraiment, la technique moderne, c'est absolument magnifique. Alors, vous n'avez pas confondu Budapest et Bucarest, parce que vous êtes au courant de ces 6 supporters de l'équipe de France qui sont allés à Bucarest samedi dernier pour le match France-Hongrie en pensant que c'était Bucarest qui accueillait cette rencontre alors que c'était Budapest.
Des visionnaires, finalement.
Exactement.
En avance de quelques jours sur l'événement.
Exactement. Et peut-être vont-ils rester, mais j'adore cette histoire. Bon, Jean-Paul disait, les Bleus sont fatigués, à l'image peut-être d'Mbappé, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui ne revient pas dans les commentaires. Et honnêtement, moi, je ne les trouve pas particulièrement émoussés. Je trouve qu'au contraire, physiquement, ils sont plutôt bien. Quel est votre sentiment?
Ah, bah écoutez, c'est ce que j'étais en train de vous dépeindre il y a quelques instants. Ils sont très clairement émoussés. Il y a des joueurs, et on parle de Kylian Mbappé, alors il est jeune, hein, il a 22 ans, il est plein de jus, mais il a quand même fait une saison extrêmement longue, il fait partie des joueurs qui ont le plus joué cette saison, et là, très sincèrement, sur le match d'hier, à la mi-temps, j'ai échangé avec des gens de son entourage qui me disaient, ce soir, il n'y est pas, il est cuit, et manifestement, il manquait de jus, et il n'était pas le seul hier.
Ah oui, vous trouvez, alors quels sont les joueurs que vous avez trouvés un peu émoussés, sinon fatigués?
Ah ben je trouve que Pogba et Kanté, les joueurs du milieu de terrain, sont un petit peu.
Mais ça m'a pas frappé moi pour Pogba, je l'ai trouvé plutôt présent.
Mieux que face à la Hongrie où il était vraiment en difficulté. On a vu sur la fin du match, l'avant-dernier match contre la Hongrie, Adrien Rabiot aussi était fatigué. Ça lui a fait du bien de ne rentrer qu'en cours de jeu. On a des joueurs qui sont quand même un peu émoussé et on le disait, les conditions climatiques et l'humidité qu'il y avait hier soir au stade n'ont pas arrangé les choses.
Alors Jean-Paul était là avec nous, Gilles va être avec nous et vous nous entendez bien là, Philippe? Vous pouvez entendre les auditeurs parce que les auditeurs peuvent peut-être dialoguer avec vous. Ils vous connaissent, ils vous écoutent le soir, évidemment avec Nicolas Georgerot et avec le docteur Silvestro qui tous les soirs présente la séquence avec l'ami également Giovanni Castaldi, parfois Christian Olivier. Gilles, une question peut-être pour Philippe Sanfourche ou une remarque? Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Non, mais moi, concernant l'état de fatigue des joueurs, moi, c'est N'Golo Kanté qui m'a le plus alerté sur cette fatigue. Il commet des fautes qu'il ne commet pas habituellement, et moi, je pense que c'est dû à son état de fatigue.
Philippe ?
Oui, mais c'est ce une que vous bonne disiez. Observation, parce qu'il y a un petit dixième de retard sur les contacts, sur les,
sur les duels au milieu de terrain, et que ce soit face à la Hongrie ou face au Portugal, on a vu ces joueurs-là qui d'habitude sont les plus prompts à être sur le ballon, à toujours avoir un petit temps d'avance. Et bien là, le petit temps d'avance, il est plutôt de retard. Alors, il faut espérer que ce soit reculé pour mieux sauter. On sait qu'il y a eu une grosse préparation physique avant la compétition. Ils ont beaucoup couru, ils ont fait beaucoup d'exercices. Ça se paye un petit peu, hein, forcément, sur les premiers matchs. Il faut espérer la théorie de la montée en puissance sur la deuxième partie de la compétition.
Philippe, des nouvelles de Lucas Hernandez et de Lucas Dean, les deux arrières latérales gauches qui sont sorties.
Alors, elles sont pas très bonnes, hein, les nouvelles, faut être honnête. Pour ce qui est de Lucas Hernandez, c'était une petite alerte au genou qui le suit depuis le début de la compétition. Donc c'est la raison pour laquelle il est sorti, on va dire par précaution. Mais il n'y a pas de garantie vraiment qu'il soit à 100% pour la fin de compétition. Et pour ce qui est de Lucas Digne, là c'est beaucoup plus inquiétant parce que je viens d'avoir des informations du staff médical. Il va passer des examens dans l'après-midi. Et que ce soit le joueur ou que ce soit le staff de l'équipe de France, pour l'instant, la tendance est plutôt pessimiste sur le fait qu'il puisse même rester au sein du groupe. Et que ça pourrait être le deuxième blessé qui quitte le groupe après Ousmane Dembélé. Donc comme c'est un des premiers joueurs qui rentre comme Dembélé, ça fait finalement du dégât au niveau de ce qu'on appelle la rotation, quoi, des premiers joueurs qui sont capables de suppléer les titulaires.
Bon, j'ai vu que Bichente Lizarazu, qui a été longtemps à RTL et présent à Budapest, il a une formation d'arrière-gauche longtemps, mais a priori, ça va être plus compliqué pour lui. Nous sommes d'accord, Philippe. Les joueurs de l'équipe de France vont quitter quand, Budapest ?
Demain matin.
Et là, direction Bucarest directement.
Direction Bucarest, oui, avec le match donc lundi soir.
Bon, Ricardo est là. Bonjour Ricardo. Vous êtes coursier dans le Pas-de-Calais. Vous allez pouvoir intervenir dans une seconde. Gilles aussi reste avec nous, bien sûr. Et puis l'ami Philippe Sansfourche dans les rues de Budapest. 37 degrés, les amis. Il va fondre, peut-être, Philippe Sansfourche.
Il n'a pas besoin, il est déjà très fit.
C'est vrai qu'il est un garçon qui s'entretient, qui ne fait pas que parler fatball. Il est également un sportif accompli. N'est-ce pas ? Il est toujours là ?
Si vous le dites.
Bon, à tout de suite.
C'est l'humilité de Philippe.
À tout
de suite. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est précisément à 1493 km de nous, à Budapest. Il est dans les rues de Budapest, Philippe Sansfourche, et il va pouvoir dialoguer avec les auditeurs. Il y a Ricardo qui est là. Bonjour Ricardo.
Bonjour Pascal, enchanté de vous parler.
Eh bien, nous aussi, ça nous fait plaisir. Votre avis sur cette équipe de France, est-ce qu'elle vous a convaincu à l'issue des trois matchs ?
Eh bien, écoutez, elle m'a convaincu pas trop, parce que, comme je disais à votre collègue, bon, je pensais qu'hier, le match, c'était un peu un match arrangé, on aurait dit. La France, si elle peut tomber contre l'Italie, ce sera en demi-finale.
C'est ce qu'on disait, c'est ce que rappelait Christian Olivier il y a quelques minutes.
Ah d'accord, ok, j'ai dû couper la radio.
L'ami Christian nous avait prévenu. Mais c'est gentil quand même de nous le redire, parce que c'est vrai que ça peut être une demi-finale intéressante.
Oui, et moi je suis d'origine italienne, Pascal.
Ricardo,
oui. Oui.
Bon, c'est
mes
donc
parents sont italiens, je suis né en France, mais bon... Mais m'ayant fait traiter de sale ricale toute ma jeunesse, je tiens un peu avec l'Italie, quoi.
Mais vous avez trouvé par exemple que l'Italie vous a fait une meilleure impression que la France ?
Ah bah écoutez, j'ai été très très étonné des trois matchs que l'Italie a fait contre les Turcs, la Suisse et le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, il a fait tourner l'équipe, donc c'était pas tout à fait la même équipe des deux premiers matchs. Mais j'ai été très étonné que Mancini a réussi à refaire une équipe qui vaut le coup, quoi, et qui joue très bien.
Philippe, qui donc est Philippe Sansfourche, qui est avec tous les journalistes de toute l'Europe et peut-être du monde d'ailleurs, qu'est-ce qui se dit au fond sur la qualité des équipes et la qualité de cet Euro ? J'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui se dégage et que le jeu est assez ouvert, Philippe.
Oui, effectivement, il y a des équipes qui ont marqué un peu les esprits. L'Italie en fait partie. Il y a le sentiment, sans grand étonnement, que la Belgique est en train de monter en puissance également, avec les retours de joueurs de la qualité de Kevin De Bruyne ou Eden Hazard. Évidemment, ils sont pour beaucoup, mais je pense qu'il faut regarder les prestations de l'équipe de France à l'échelle de la difficulté du groupe dans lequel elle était. C'est-à-dire que l'Allemagne, le Portugal et la France ont donné le sentiment d'avoir des difficultés parce qu'ils étaient tout de suite dans une compétition qui, à mon avis, était d'une intensité tout autre que celles rencontrées par l'Angleterre, par l'Espagne ou par l'Italie. Donc la vérité, on va la voir à partir des matchs à élimination directe. Tous les joueurs qui ont l'expérience de ces grands tournois le disent, c'est une deuxième compétition qui démarre à partir des huitièmes de finale.
Avec un Belgique-Portugal dimanche, qui sera peut-être le match avec Angleterre-Allemagne également mardi prochain. Mais c'est vrai que ce Belgique-Portugal, on a envie de le voir.
Ah oui, on va avoir tout de suite effectivement des favoris qui vont tomber là. Il est temps, parce que c'est vrai que ce système avec les meilleurs troisièmes de chaque poule, avec des calculs impensables, au final personne n'est éliminé quoi. C'est-à-dire qu'on fait
Vive le spectacle. Adrien sera notre dernier auditeur. Adrien, bonjour. Est-ce que les Bleus vous ont convaincu?
Les Bleus m'ont moyennement convaincu, on va dire. J'attendais une équipe de France un petit peu plus percutante avec on va dire des armes offensives qui allaient aller vraiment jusqu'au bout, et je reste un petit peu sur ma faim, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Après, milieu de terrain relativement satisfaisant, une défense qui a besoin d'un petit peu se contenir. On va dire Kimpembe peut faire des très belles actions, et à côté de ça va faire des actions totalement inutiles. Les choix de Deschamps, pour l'instant, je les attends un petit peu. Je suis un petit peu sur ma faim quand même.
C'est-à-dire, les choix de Deschamps, c'est un choix fort quand même d'avoir titularisé à chaque fois Benzema.
C'est un choix fort. J'aurais fait exactement la même chose, et je l'aurais peut-être sorti à la 60e ou 70e minute pour remplacer par Giroud. Parce que Giroud, même si entre guillemets il fait pas grand chose, en équipe de France il fait des choses, et il sait qu'il a quelque chose à prouver, quelque chose à amener, et je pense que ces 20 ou ces 30 dernières minutes auraient été bénéfiques, et si Benzema l'avait pas fait quoi. Et on voit que les buts de Benzema arrivent à 47e minute entre guillemets, donc peut-être faire des changements offensifs en fait.
Mission réussie en tout cas pour Benzema, Philippe Sanfourche.
Oui, tout à fait. Il est transfiguré. Et ce qui émane un petit peu de l'atmosphère dans le groupe, c'est que tout le monde attendait ça avec impatience.
C'est sûr.
Et ça risque de le libérer. On l'a vu dans la deuxième partie du match, son attitude sur le terrain, sa façon de contrôler le ballon, de faire des accélérations. Il était libéré par quelque chose. Il y a un joueur qu'il faut pas oublier, c'est Kingsley Coman. On n'en parle jamais de Kingsley Coman.
Mais je trouve que sa rentrée a été excellente hier.
Exceptionnel.
Et lorsqu'il est rentré, il a été très bon. Donc
bien sûr.
Y a quand même des armes encore pour pouvoir aller loin dans cette compétition.
Bon, le jeune Georges Rowe va bien ?
Écoutez, il est prêt, il est attablé, il n'attend qu'une chose, c'est de commander sa salade grecque.
D'accord, parce que 37 degrés, le jeune Georges Rowe doit se couvrir. Parce que
oui,
qu'il fasse...
il a du foncier aussi, hein, vous savez.
Il faut qu'il fasse, faites attention
à une salade grecque, un plat typique.
Vous savez, moi j'ai mangé italien dans toutes les villes d'Europe parce que Thierry Roland n'allait que dans les restos italiens. Donc c'était simple, comme ça on ne s'adaptait pas forcément à la cuisine locale. Merci Philippe Sanfourche en direct de Budapest, et vous serez à Bucarest ces prochaines heures avec l'équipe de France.
Voilà, on va essayer de ne pas se tromper dans l'aiguillage.
Oui, essayez, mais vous êtes formidable. Merci, le débrief.
Merci à vous.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Le recul du RN au premier tour des régionales, peut-il profiter Éric Zemmour? Le polémiste doit-il être candidat à la présidentielle? Patrick a un avis sur nos questions.
Qu'il reste à sa place. C'est un très bon polémiste. Il va se prendre une grande claque, c'est tout ce qu'il va prendre, et en plus il va se faire sortir de tous les médias après.
Mais Fabrice est confiant et soutient le polémiste.
Monsieur Zemmour, on le connaît, on sait que c'est une personne très fidèle à sa France. Moi, monsieur Zemmour n'est pas un humoriste, n'est pas monsieur Bigard.
Jacques a un avis aussi au 32-10.
Moi, je crois qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. Et je dis pourquoi pas, à la rigueur. On a bien vu arriver Macron alors qu'il venait de nulle part. Hein.
Bah, prenons l'avis de Jean-Claude Duss également.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Alors, Éric Zemmour sera-t-il candidat? On vous pose la question, cher Pascal, comme vous le croisez dans les couloirs d'une autre station.
Et alors, je le taquine, forcément. Je lui dis, alors, tu y vas ou tu n'y vas pas? Donc, il rit, il sourit. Je lui dis, tu me le diras à moi en premier, j'espère. Il rit de nouveau, etc.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais il manque quelque chose.
Monsieur Caradoni, il n'y a pas de chanson aujourd'hui.
Bah non, mais demandez-moi quelque chose et j'essaierai de le trouver.
Demandez-moi.
Ah, vous inventez une chanson pour moi?
Tout ce que vous voulez.
Quel honneur.
Vous connaissez pas cette chanson?
Ah non.
Le géant de papier.
quand même, Greg Caradoni.
Ah, demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous connaissez pas le genre
si,
de papier?
Si, je la connais très bien, je l'ai pas reconnu, c'est tout.
Il est méchant.
Et là, je peux vous dire, mesdames, messieurs, qu'on n'arrête plus Pascal Pro.
Je suis un géant de papier.
Et il danse même dans le studio.
Je danse tout seul. C'est un peu l'histoire de ma vie.
Et puis, mesdames, messieurs, la France est en huitième de finale de l'Euro. Les Bleus ont fait match nul de but partout hier soir contre le Portugal.
RTL, on refait le match.
Ouais, et là... Un pénalty sifflé hier soir avant la mi-temps. Qui va tirer? Benzema s'approche.
Voilà. Imaginez, si Benzema le met pas...
Mais il va le mettre.
Philippe.
Ah non, mais ils prennent un gros risque.
Mais oui, mais non, mais peu importe, risque. Mais peu importe qu'il le mette ou pas. Giovanni, peu importe qu'il le mette ou pas, c'est Griezmann qui doit tirer le pénalty.
Mais oui, vas-y Karim, fais trembler les filets.
Karim Benzema, c'est les deux.
Premier but de Benzema. Allez, début de la seconde mi-temps.
Benzema, Benzema, le but, le but, le but de Karim Benzema.
C'est pas possible, quelle poisse.
Il a accordé.
Karim, finalement, que faut-il retenir?
Je baisse jamais les bras.
Ben voilà, tu as raison. Une dernière demande à Pascal, cher Patrick.
Faites-nous un petit coup de chanson de temps en temps, quand même.
Hein oui, si vous,
pas.
Je si vous le souhaitez.
Pas. Vous en êtes vraiment sûr?
Je suis un géant de papier.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la nouvelle chanson pour Karim Benzema.
Il est vraiment phénoménal.
Magnifique chanson. Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.